Chapitre 24. Rouletabille connaît les deux moitiés de l'assassin. Mademoiselle Stangerson avait failli être assassinée pour la seconde fois. Le malheur fut qu'elle s'emporta beaucoup plus mal la seconde que la première. Les trois coups de couteau que l'homme lui avait portés dans la poitrine en cette nouvelle nuit tragique la mirent longtemps entre la vie et la mort. Et quand enfin la vie fut plus forte et qu'on put espérer que la malheureuse femme, cette fois encore, échapperait à son sanglant destin, on s'aperçut que, si elle reprenait chaque jour l'usage de ses sens, elle ne recouvrait point celui de sa raison. La moindre allusion à l'horrible tragédie la faisait délirer, et il n'est point non plus, je crois bien, exagéré de dire que l'arrestation de M. Robert Darzac, qui eut lieu au château du Glandier le lendemain de la découverte du cadavre du garde, creusa encore l'abîme moral où nous vîmes disparaître cette belle intelligence. M. Robert Darzac arriva au château vers 9h30. Je le vis accourir à travers le parc, les cheveux et les habits en désordre, crottés, boueux, dans un état lamentable. Son visage était d'une pâleur mortelle. Rouletabille et moi, nous étions accoudés à une fenêtre de la galerie. Il nous aperçut, il poussa vers nous un cri désespéré. « J'arrive trop tard ?» Rouletabille lui cria. « Elle vit !» Une minute après, M. Darzac entrait dans la chambre de Mlle Stangerson et à travers la porte, nous entendîmes ses sanglots. Fatalité ! Je gémissais à côté de moi Rouletabille. Mais quels dieux infernaux veillent donc sur le malheur de cette famille ? Si on ne m'avait pas endormi, j'aurais sauvé Mlle Stangerson de l'homme et je l'aurais rendu muet pour toujours, et le garde ne serait pas mort. M. Darzac vint nous retrouver. Il était tout en larmes. Rouletabille lui raconta tout, et comment il avait tout préparé pour leur salut, à Mlle Stangerson et à lui, et comment il y serait parvenu en éloignant l'homme pour toujours, après avoir vu sa figure, et comment son plan s'était effondré dans le sang à cause du narcotique. Ah, mais si vous aviez eu réellement confiance en moi, fit tout bas le jeune homme, si vous aviez dit à Mlle Stangerson d'avoir confiance en moi. Mais ici, chacun se défie de tous. La fille se défie du père, et la fiancée se défie du fiancé. Pendant que vous me disiez de tout faire pour empêcher l'arrivée de l'assassin, elle préparait tout pour se faire assassiner. Je suis arrivé trop tard, à demi endormi, me traînant presque dans cette chambre où la vue de la malheureuse baignant dans son sang me réveilla tout à fait. Sur la demande de M. Darzac, Rouletabille raconta la scène. S'appuyant au mur pour ne pas tomber, pendant que, dans le vestibule et dans la cour d'honneur, nous poursuivions l'assassin, il s'était dirigé vers la chambre de la victime. Les portes de l'antichambre sont ouvertes. Il entre. Mlle Stangerson gît animée, à moitié renversée sur le bureau, les yeux clos. Son peignoir est rouge du sang qui coule à flot de sa poitrine. Il semble à Rouletabille, encore sous l'influence du narcotique, qui se promène dans quelque affreux cauchemar. Automatiquement, il revient dans la galerie, ouvre une fenêtre, nous clame le crime, nous ordonne tuer et retourne dans la chambre. Aussitôt, il traverse le boudoir désert, entre dans le salon dont la porte est restée entrouverte, secoue M. Stangerson sur le canapé où il s'est étendu et le réveille, comme je l'ai réveillé, lui, tout à l'heure. M. Stangerson se dresse avec des yeux hagards, se laisse traîner par Rouletabille jusque dans la chambre, aperçoit sa fille, pousse un cri déchirant. Ah, il est réveillé. Il est réveillé, et tous les deux maintenant, réunissant leurs forces chancelantes, transportent la victime sur son lit. Puis Rouletabille veut nous rejoindre pour savoir, mais avant de quitter la chambre, il s'arrête près du bureau. Il y a là par terre un paquet énorme, un ballot. Mais qu'est-ce que ce paquet fait là, auprès du bureau? L'enveloppe de serge qui l'entoure est dénouée. Rouletabille se penche. Des papiers, des photographies. Et il lit. Nouvel électroscope, condensateur, différentiel. Propriété fondamentale de la substance intermédiaire entre la matière pondérable et l'éther impondérable. Vraiment, mais quel est ce mystère et cette formidable ironie du sort qui veulent qu'à l'heure où on lui assassine sa fille, on vienne le restituer au professeur Stangerson toutes ces paperasses inutiles qu'il jettera au feu le lendemain. Dans la matinée qui suivit cette horrible nuit, nous avons vu réapparaître M. de Marquet, son greffier, les gendarmes. Nous avons tous été interrogés, excepté naturellement Mlle Stangerson, qui était dans un état voisin du coma. Rouletabille et moi, après nous être concertés, n'avons dit que ce que nous avons bien voulu dire. J'eus garde de rien rapporter de ma station dans le cabinet noir, ni des histoires de narcotiques. Bref, nous tûmes tout ce qui pouvait faire soupçonner que nous nous attendions à quelque chose, et aussi tout ce qui pouvait faire croire que Mlle Stangerson attendait l'assassin. La malheureuse allait peut-être payer de sa vie le mystère dont elle entourait son assassin. Il ne nous appartenait point de rendre un pareil sacrifice inutile. Arthur Rance raconta à tout le monde, fort naturellement, si naturellement que j'en fus stupéfait, qu'il avait vu le garde pour la dernière fois vers 11 heures du soir. Celui-ci était venu dans sa chambre, dit-il, pour y prendre sa valise qu'il devait transporter le lendemain matin à la première heure à la gare de Saint-Michel, et s'était attaché à causer longuement chasse et braconnage avec lui. Arthur William Rance, en effet, devait quitter le Glandier dans la matinée et se rendre à pied, selon son habitude, à Saint-Michel. Aussi avait-il profité d'un voyage matinal du garde dans le petit bourg pour se débarrasser de son bagage. Du moins, je fus conduit à le penser, car M. Stangerson confirma ses dires. Il ajouta qu'il n'avait pas eu le plaisir, la veille au soir, d'avoir à sa table son ami Arthur Rance, parce que celui-ci avait pris vers les 5 heures un congé définitif de sa fille et de lui. Monsieur Arthur Rance s'était fait servir simplement un thé dans sa chambre, se disant légèrement indisposé. Bernier, le concierge, sur les indications de Rouletabille, rapporta qu'il avait été requis par le garde lui-même cette nuit-là pour faire la chasse aux braconniers. Le garde ne pouvait plus le contredire. Qu'ils s'étaient donné rendez-vous, tous deux, non loin de la Chênaie, et que, voyant que le garde ne venait point, il était allé, lui, Bernier, au-devant du garde. Il était arrivé à hauteur du donjon, ayant passé la petite porte de la cour d'honneur, quand il aperçut un individu qui fuyait à toutes jambes du côté opposé, vers l'extrémité de l'aile droite du château. Des coups de revolver retentirent dans le même moment derrière le fuyard. Rouletabille était apparu à la fenêtre de la galerie. Il l'avait aperçu, lui, Bernier, il l'avait reconnu, et l'avait vu avec son fusil et lui avait crié de tirer. Alors Bernier avait lâché son coup de fusil qu'il tenait tout près. Et il était persuadé qu'il avait mis à mal le fuyard. Il avait cru même qu'il l'avait tué, et cette croyance avait duré jusqu'au moment où Rouletabille, dépouillant le corps qui était tombé sous le coup de fusil, lui avait appris que ce corps avait été tué d'un coup de couteau. Que du reste, il restait ne rien comprendre à une pareille fantasmagorie, attendu que, si le cadavre trouvé n'était point celui du fuyard sur lequel nous avions tous tiré, il fallait bien que ce fuyard fût quelque part. Or, dans ce petit coin de cour où nous étions tous rejoints autour du cadavre, il n'y avait pas de place pour un autre mort ou pour un vivant, sans que nous le vissions. Ainsi parla le père Bernier. Mais le juge d'instruction lui répondit que, pendant que nous étions dans ce petit bout de cour, la nuit était bien noire, puisque nous n'avions pu distinguer le visage du garde et que, pour le reconnaître, il nous avait fallu le transporter dans le vestibule. À quoi le père Bernier répliqua que si on ne l'avait pas vu, l'autre corps, mort ou vivant, on aurait au moins marché dessus, tant ce bout de cœur et de cour est étroit. Enfin, nous étions, sans compter le cadavre, cinq dans ce bout de cour, et il eût été vraiment étrange que l'autre corps nous échappât. La seule porte qui donnait dans ce bout de cour était celle de la chambre du garde, et la porte en était fermée. On en avait retrouvé la clé dans la poche du garde. Tout de même, comme ce raisonnement de Bernier, qui à première vue paraissait logique, conduisait à dire qu'on avait tué à coups d'armes à feu un homme mort d'un coup de couteau, le juge d'instruction ne s'y arrêta pas longtemps. Et il fut évident pour tous, dès midi, que ce magistrat était persuadé que nous avions raté le fuyard et que nous avions trouvé là un cadavre qui n'avait rien à voir avec notre affaire. Pour lui, le cadavre du garde était une autre affaire. Il voulut le prouver sans plus tarder, et il est probable que cette nouvelle affaire correspondait avec des idées qu'il avait depuis quelques jours sur les mœurs du garde, sur ses fréquentations, sur la récente intrigue qu'il entretenait avec la femme du propriétaire de l'auberge du donjon, et corroborait également les rapports qu'on avait dû lui faire relativement aux menaces de mort proférées par le père Mathieu à l'adresse du garde, car à 1 heure après-midi, le père Mathieu, malgré ses gémissements de rhumatisant et les protestations de sa femme, était arrêté et conduit sous bonne escorte à Corbeil. On n'avait cependant rien découvert chez lui de compromettant, mais des propos tenus encore la veille à des rouliers qui les répétèrent le compromirent plus que si l'on avait trouvé dans sa paillasse le couteau qui avait tué l'homme vert. Nous en étions là, ahuris de tant d'événements aussi terribles qu'inexplicables, quand, pour mettre le comble à la stupéfaction de tous, nous vîmes arriver au château Frédéric Larsan, qui en était parti aussitôt après avoir vu le juge d'instruction, et qui en revenait accompagné d'un employé du chemin de fer. Nous étions alors dans le vestibule avec Arthur Rance, discutant de la culpabilité et de l'innocence du père Mathieu. Du moins, Arthur Rance et moi étions seuls à discuter, car Rouletabille semblait parti pour quelque rêve lointain et ne s'occupait en aucune façon de ce que nous disions. Le juge d'instruction et son greffier se trouvaient dans le petit salon vert où Robert Darzac nous avait introduit quand nous étions arrivés pour la première fois au Glandier. Le père Jacques, mandé par le juge, venait d'entrer dans le petit salon. M. Robert Darzac était en haut, dans la chambre de Mlle Stangerson, avec M. Stangerson et les médecins. Frédéric Larsan entra dans le vestibule avec l'employé de chemin de fer. Rouletabille et moi reconnûmes aussitôt cet employé à sa petite barbiche blonde. « Tiens, l'employé d'Épinay-sur-Orge, m'écriai-je. » Et je regardai Frédéric Larsan qui répliqua en souriant. « Oui, 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 vous avez raison, c'est l'employé d'Épinay-sur-Orge. » Sur quoi Fred se fit annoncer au juge d'instruction par le gendarme qui était à la porte du salon. Aussitôt, le père Jacques sortit et Frédéric Larsan et l'employé furent introduits. Quelques instants s'écoulèrent, ou 10 minutes peut-être. Rouletabille était fort impatient. La porte du salon se rouvrit. Le gendarme, appelé par le juge d'instruction, entra dans le salon, en ressortit, gravit l'escalier et le redescendit. Rouvrant alors la porte du salon et ne la refermant pas, il dit au juge d'instruction « Monsieur le juge, Monsieur Robert Darzac ne veut pas descendre. » « Comment il ne peut pas ?» s'écria Monsieur de Marquet. « Non, il dit qu'il ne peut quitter Mademoiselle Stangerson dans l'état où elle se trouve. » « C'est bien, dit Monsieur de Marquet, puisqu'il ne vient pas, nous irons à lui. » Monsieur de Marquet et le gendarme montèrent. Le juge d'instruction fit signe à Frédéric Larsan et à l'employé du chemin de fer de les suivre. Rouletabille et moi fermions la marche. On arriva ainsi dans la galerie, devant la porte de l'antichambre de Mademoiselle Stangerson. Monsieur de Marquet frappa à la porte. Une femme de chambre apparut. C'était Sylvie, une petite boniche, dont les cheveux d'un blond fadasse retombaient en désordre sur un visage consterné. « Monsieur Stangerson est là ?» demanda le juge d'instruction. « Oui, monsieur. Dites-lui que je désire lui parler. » Sylvie alla chercher Monsieur Stangerson. Le savant vint à nous. Il pleurait, oh, il faisait peine à voir. « Que me voulez-vous encore ?» demanda celui-ci au juge. « Ne pourrait-on pas, monsieur, dans un moment pareil, me laisser un peu tranquille ?»« Monsieur, fit le juge, il faut absolument que j'aie sur le champ un entretien avec monsieur Robert Darzac. Ne pourriez-vous le décider à quitter la chambre de mademoiselle Stangerson ? Sans quoi, je me verrais dans la nécessité d'en franchir le seuil avec tout l'appareil de la justice. » Le professeur ne répondit pas. Il regarda le juge, le gendarme et tous ceux qui les accompagnaient comme une victime regarde ses bourreaux, mais il rentra dans la chambre. Aussitôt, M. Robert Darzac en sortit. Il était bien pâle et bien défait. Mais quand le malheureux aperçut derrière Frédéric Larsan l'employé de chemin de fer, son visage se décomposa encore. Ses yeux devinrent hagards et il ne put retenir un sourd gémissement. Nous avions tous saisi le tragique mouvement de cette physionomie douloureuse. Nous ne pûmes nous empêcher de laisser échapper une exclamation de pitié. Nous sentîmes qu'il se passait alors quelque chose de définitif qui décidait de la perte de M. Robert Darzac. Seul Frédéric Larsan avait une figure rayonnante et montrait la joie d'un chien de chasse qui s'est enfin emparé de sa proie. M. de Marquet dit, montrant à M. Darzac le jeune employé de la barbiche blonde, « Vous reconnaissez, monsieur ?» « Je le reconnais, » fit Robert Darzac, d'une voix qu'il essayait en vain de rendre ferme. « C'est un employé de l'Orléans à la station d'Épinay-sur-Arge. »« Ce jeune homme, » continua M. de Marquet, « affirme qu'il vous a vu descendre le chemin de fer à Épinay. »« Oui, cette nuit, » termina M. Darzac, « à 10h30, c'est vrai. » Il eut un silence. « Monsieur Darzac, » reprit le juge d'instruction, sur un ton qui était empreint d'une poignante émotion, « Monsieur Darzac, que veniez-vous faire cette nuit à Épinay-sur-Georges, à quelques kilomètres de l'endroit où l'on assassinait Mademoiselle Stangerson ?» Monsieur Darzac se tut. Il ne baissa pas la tête, mais il ferma les yeux, soit qu'il voulût dissimuler sa douleur, soit qu'il craignît qu'on pût lire dans son regard quelque chose de son secret. « Monsieur Darzac, » insista Monsieur de Marquet, « pouvez-vous me donner l'emploi de votre temps cette nuit ?» Monsieur Darzac rouvrit les yeux. Il semblait avoir reconquis toute sa puissance sur lui-même. « Non, monsieur. Réfléchissez, monsieur, car je vais être dans la nécessité, si vous persistez dans votre étrange refus, de vous garder à ma disposition. » « Je refuse. Monsieur Darzac, au nom de la loi, je vous arrête. » Le juge n'avait pas plus tôt prononcé ces paroles que je vis Rouletabille faire un mouvement brusque vers Monsieur Darzac. Il allait certainement parler, mais celui-ci d'un geste lui ferma la bouche. Du reste, le gendarme s'approchait déjà de son prisonnier. À ce moment, un appel désespéré retentit. « Robert ! Robert !» Nous reconnûmes la voix de Mademoiselle Stangerson, et à cet accent de douleur, pas un de nous qui ne frissonna. Larsan lui-même, cette fois, en pâtit. Quant à Monsieur Darzac, répondant à l'appel, il s'était déjà précipité dans la chambre. Le juge, le gendarme, Larsan s'y réunirent derrière lui. Rouletabille et moi restâmes sur le pas de la porte. Spectacle déchirant. Mademoiselle Stangerson, dont le visage avait la pâleur de la mort, s'était soulevée sur sa couche malgré les deux médecins et son père. Elle tendait les bras tremblants vers Robert Darzac, sur qui Larsan et le gendarme avaient mis la main. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle voyait, elle comprenait. Sa bouche sembla murmurer un mot qui expira sur ses lèvres exsangues, un mot que personne n'entendit, et elle se renversa, évanouie. On emmena rapidement Darzac hors de la chambre, dans le vestibule. En attendant une voiture que Larsan était allé chercher, nous nous arrêtâmes dans le vestibule. Notre émotion à tous était extrême. Monsieur de Marquet avait la larme à l'œil. Rouletabille profita de ce moment d'attendrissement général pour dire à Monsieur Darzac « Vous ne vous défendrez pas ?»« Non, » répliqua le prisonnier. « Moi, je vous défendrai, monsieur. » « Vous ne pouvez pas, » affirma le malheureux avec un pauvre sourire. « Ce que nous n'avons pu faire, Mademoiselle Stangerson et moi, vous ne le ferez pas. »« Si, je le ferai. » Et la voix de Rouletabille était étrangement calme et confiante. Il continua. « Je ferai, monsieur Robert Darzac, parce que moi, j'en sais plus long que vous. »« Allons donc. » murmura Darzac presque avec colère. « Oh, soyez tranquille, je ne saurai que ce qu'il sera utile de savoir pour vous sauver. »« Il ne faut rien savoir, jeune homme, si vous voulez avoir droit à ma reconnaissance. » Rouletabille secoua la tête. Il s'approcha tout près de Darzac. « Écoutez ce que je vais vous dire, » fit-il à voix basse. Et que cela vous donne confiance. Vous, vous ne savez que le nom de l'assassin. Mademoiselle Stangerson, elle, connaît seulement la moitié de l'assassin. Mais moi, je connais ses deux moitiés. Je connais l'assassin tout entier, moi. Robert Darzac ouvrit des yeux qui attestaient qu'il ne comprenait pas un mot de ce que venait de lui dire Rouletabille. La voiture, sur ses entrefaites, arriva, conduite par Frédéric Larsan. On fit monter Darzac et le gendarme. Larsan resta sur le siège. On emmenait le prisonnier à Corbeil. Chapitre 25. Rouletabille part en voyage. Le soir même, nous quittions le glandier, Rouletabille et moi. Nous en étions fort heureux. Cet endroit n'avait rien qui pût encore nous retenir. Je déclarais que je renonçais à percer tant de mystères, et Rouletabille, en me donnant une tape amicale sur l'épaule, me confia qu'il n'avait plus rien à apprendre au glandier, parce que le glandier lui avait tout appris. Nous arrivâmes à Paris vers 8 heures. Nous dînâmes rapidement, puis, fatigués, nous nous séparâmes en nous donnant rendez-vous le lendemain matin chez moi. À l'heure dite, Rouletabille entrait dans ma chambre. Il était vêtu d'un complet à carreaux en drap anglais, avait un holster sur le bras, une casquette sur la tête et un sac à la main. Il m'apprit qu'il partait en voyage. « Combien de temps serez-vous parti ?» lui demandai-je. « Bon, un mois ou deux, fit-il, cela dépend. » Je n'osais l'interroger. « Savez-vous, me dit-il, quel est le mot que Mademoiselle Stangerson a prononcé hier avant de s'évanouir en regardant M. Robert Darzac ?»« Oh non, bon, personne ne l'a entendu. »« Si, répliqua Rouletabille, moi. » Elle lui disait « Parle !» Et M. Darzac parlera ? Oh, jamais ! J'aurais voulu prolonger l'entretien, mais il me serra fortement la main et me souhaita une bonne santé. Je n'eus que le temps de lui demander « Vous ne craignez point que, pendant votre absence, il se commette de nouveaux attentats ?»« Oh, je ne crains plus rien de ce genre, » dit-il. Depuis que M. Darzac est en prison. » Sur cette parole bizarre, il me quitta. Je ne devais plus le revoir qu'en cour d'assises, au moment du procès Darzac, lorsqu'il vint à la barre expliquer l'inexplicable. Chapitre 26. Où Joseph Rouletabille est impatiemment attendu. Le 15 janvier suivant, c'est-à-dire 2 mois et demi après les tragiques événements que je viens de rapporter, l'Époque publiait en première colonne, première page, le sensationnel article suivant. Le jury de Seine-et-Oise est appelé aujourd'hui à juger l'une des plus mystérieuses affaires qui soient dans les annales judiciaires. Jamais procès n'aura présenté tant de points obscurs, incompréhensible, inexplicable. Cependant, l'accusation n'a point hésité à faire asseoir sur le banc des assises un homme respecté, estimé, aimé de tous ceux qui le connaissent, un jeune savant, espoir de la science française, dont toute l'existence fut de travail et de probité. Quand Paris apprit l'arrestation de M. Robert Darzac, un cri unanime de protestation s'éleva de toutes parts. La Sorbonne tout entière, déshonorée par le geste inouï du juge d'instruction, proclama sa foi dans l'innocence du fiancé de Mademoiselle Stangerson. M. Stangerson lui-même attesta hautement l'erreur où s'était fourvoyée la justice, et il ne fait de doute pour personne que, si la victime pouvait parler, elle viendrait réclamer aux 12 jurés de Seine-et-Oise l'homme dont elle voulait faire son époux et que l'accusation veut envoyer à l'échafaud. Il faut espérer qu'un jour prochain, Mademoiselle Stangerson recouvrera sa raison qui a momentanément sombré dans l'horrible mystère du glandier. Voulez-vous qu'elle la reperde lorsqu'elle apprendra que l'homme qu'elle aime est mort de la main du bourreau? Cette question s'adresse au jury, auquel nous nous proposons d'avoir affaire aujourd'hui même. Nous sommes décidés, en effet, à ne point laisser 12 braves gens commettre une abominable erreur judiciaire. Certes, des coïncidences terribles, des traces accusatrices, un silence inexplicable de la part de l'accusé, un emploi du temps énigmatique, l'absence de tout alibi ont pu entraîner la conviction du parquet, qui, ayant vainement cherché la vérité ailleurs, s'est résolu à la trouver là. Les charges sont sans apparence si accablantes pour Monsieur Robert Darzac qu'il faut même excuser un policier aussi averti, aussi intelligent et généralement aussi heureux que Monsieur Frédéric Larsan de s'être laissé aveugler par elles. Jusqu'alors, tout est venu accuser Monsieur Robert Darzac devant l'instruction. Aujourd'hui, nous allons, nous, le défendre devant le jury, et nous apporterons à la barre une lumière telle que tout le mystère du Glandier en sera illuminé, car nous possédons la vérité. Si nous n'avons point parlé plus tôt, c'est que l'intérêt même de la cause que nous voulons défendre l'exigeait sans doute. Nos lecteurs n'ont pas oublié ces sensationnelles enquêtes anonymes que nous avons publiées sur le pied gauche de la rue Oberkampf, sur le fameux vol du Crédit Universel et sur l'affaire des lingots d'or de la Monnaie. Elles nous faisaient prévoir la vérité avant même que l'admirable ingéniosité d'un Frédéric Larsan ne l'eût dévoilée tout entière. Ces enquêtes étaient conduites par notre plus jeune rédacteur, un enfant de 18 ans, Joseph Rouletabille, qui sera illustre demain. Quand l'affaire du Glandier éclata, notre petit reporter se rendit sur les lieux, força toutes les portes et s'installa dans le château d'où tous les représentants de la presse avaient été chassés. À côté de Frédéric Larsan, il chercha la vérité. Il vit avec épouvante l'erreur où s'abîmait tout le génie du célèbre policier. En vain essaya-t-il de le rejeter hors de la mauvaise piste où il s'était engagé. Le grand Fred ne voulut point consentir à recevoir de leçons de ce petit journaliste. Nous savons où cela a conduit, Monsieur Robert Darzac. Or, il faut que la France sache, il faut que le monde sache que le soir même de l'arrestation de Monsieur Robert Darzac, le jeune Joseph Rouletabille pénétrait dans le bureau de notre directeur et lui disait « Je pars en voyage. Combien de temps serai-je parti? Je ne pourrais vous le dire. Peut-être un mois, deux mois, trois mois. Peut-être ne reviendrai-je jamais. Voici une lettre. Si je ne suis pas revenu le jour où M. Darzac comparaîtra devant les assises, vous ouvrirez cette lettre en cour d'assises après le défilé des témoins. Entendez-vous pour cela avec l'avocat de M. Robert Darzac. M. Robert Darzac est innocent. Dans cette lettre, il y a le nom de l'assassin et je ne dirai point les preuves, car les preuves... je vais les chercher, mais l'explication irréfutable de sa culpabilité. » Et notre rédacteur partit. Nous sommes restés longtemps sans nouvelles, mais un inconnu est venu trouver notre directeur il y a 8 jours pour lui dire « Agissez, suivant les instructions de Joseph Rouletabille, si la chose devient nécessaire. Il y a la vérité dans cette lettre. Cet homme n'a pas voulu nous dire son nom. Aujourd'hui, donc 15 janvier, nous voici au grand jour des assises. Joseph Rouletabille n'est pas de retour, peut-être ne le reverrons-nous jamais. La presse, elle aussi, compte ses héros, victimes du devoir. Le devoir professionnel, le premier de tous les devoirs. Peut-être, à 7 heures, y a-t-il succombé? Nous saurons le venger. Notre directeur, cet après-midi, sera à la cour d'assises de Versailles avec la lettre. La lettre qui contient le nom de l'assassin. Et en tête de l'article, on avait mis le portrait de Rouletabille. Les Parisiens qui se rendirent ce jour-là à Versailles pour le procès dit du mystère de la chambre jaune n'ont certainement pas oublié l'incroyable cohue qui se bousculait à la gare Saint-Lazare. On ne trouvait plus de place dans les trains et l'on ne dut improviser des convois supplémentaires. L'article de l'époque avait bouleversé tout le monde, excité toutes les curiosités, poussé jusqu'à l'exaspération la passion des discussions. Des coups de poing furent échangés entre les partisans de Joseph Rouletabille et les fanatiques de Frédéric Larsan. Car, chose bizarre, la fièvre de ces gens venait moins de ce qu'on allait peut-être condamner un innocent que de l'intérêt qu'ils portaient à leur propre compréhension du mystère de la chambre jaune. Chacun avait son explication et la tenait pour bonne. Tous ceux qui expliquaient le crime comme Frédéric Larsan n'admettaient point qu'on pût mettre en doute la perspicacité de ce policier populaire. Et tous les autres qui avaient une explication autre que celle de Frédéric Larsan prétendait naturellement qu'elle devait être celle de Joseph Rouletabille, qui ne connaissait pas encore. Le numéro de l'époque à la main, les Larsan et les Rouletabille se disputèrent, se chamaillèrent jusque sur les marches du palais de justice de Versailles, jusque dans le prétoire. Un service d'ordre extraordinaire avait été commandé. L'innombrable foule qui ne put pénétrer dans le palais resta jusqu'au soir aux alentours du monument, maintenu difficilement par la troupe et la police, avide de nouvelles, accueillant des rumeurs les plus fantastiques. Un moment, le bruit circula qu'on venait d'arrêter en pleine audience M. Stangerson lui-même, qui s'était avoué l'assassin de sa fille. C'était de la folie. L'énervement était à son comble, et l'on attendait toujours Rouletabille. Des gens prétendaient le reconnaître et le connaître, et quand un jeune homme, muni d'un laissez-passer, traversait la place libre qui séparait la foule du palais de justice, des bousculades se produisaient. On s'écrasait, on criait « Rouletabille ! Voici Rouletabille !» Des témoins, qui ressemblaient plus ou moins vaguement aux portraits publiés par l'époque, furent aussi acclamés. L'arrivée du directeur de l'époque fut encore le signal de quelques manifestations. Les uns applaudirent, les autres sifflèrent. Il y avait beaucoup de femmes dans la foule. Dans la salle des assises, le procès se déroulait sous la présidence de M. de Rocoux, un magistrat imbu de tous les préjugés des gens de robe, mais faussièrement honnête. On avait fait l'appel des témoins. J'en étais naturellement, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, avaient touché le mystère du Glandier. M. Stangerson, vieilli de 10 ans, méconnaissable, Larsan, M. Arthur Lawrence, la figure toujours enluminée, le père Jacques, le père Mathieu, qui fut amené menottes au poing entre deux gendarmes, Madame Mathieu, tout en larmes, les Berniers, les deux gardes malades, le maître d'hôtel, tous les domestiques du château, l'employé du chemin de fer d'Épinay, l'employé de poste du bureau 40, quelques amis de M. et Mlle Stangerson et tous les témoins à décharge de M. Robert Darzac. J'eus la chance d'être entendu parmi les premiers témoins, ce qui me permit d'assister à presque tout le procès. Je n'ai point besoin de vous dire que l'on s'écrasait dans le prétoire. Des avocats étaient assis jusque sur les marches de la cour, et derrière les magistrats en robe rouge, tous les parquets des environs étaient représentés. M. Robert Darzac apparut au banc des accusés, entre les gendarmes si calme, si grand et si beau, qu'un murmure d'admiration plus que de compassion l'accueillit. Il se pencha aussitôt vers son avocat, maître Henri Robert, qui assistait de son premier secrétaire, maître Andréès, alors débutant, avait déjà commencé à feuilleter son dossier. Beaucoup s'attendaient à ce que M. Sanderson allât serrer la main de l'accusé, mais l'appel des témoins eut lieu et ceux-ci quittèrent tous la salle sans que cette démonstration sensationnelle se fût produite. Au moment où les jurés prirent place, on remarqua qu'ils avaient eu l'air de s'intéresser beaucoup un rapide entretien que maître Henri Robert avait eu avec le directeur de l'époque. Celui-ci s'en fit ensuite prendre place au premier rang du public. Quelques-uns s'étonnèrent qu'il ne suivît point les témoins dans la salle qui leur était réservée. La lecture de l'acte d'accusation s'accomplit, comme presque toujours, sans incident. Je ne relaterai pas ici le long interrogatoire que subit M. Darzac. Il répondit à la fois de la façon la plus naturelle et la plus mystérieuse. Tout ce qu'il pouvait dire parut naturel. Tout ce qu'il tut parut terrible pour lui, même aux yeux de ceux qui sentaient son innocence. Son silence sur les points que nous connaissons se dressa contre lui et il semblait bien que ce silence dût fatalement l'écraser. Il résista aux objurgations du président des assises et du ministère public. On lui dit que se taire en une pareille circonstance équivalait à la mort. « C'est bien, dit-il, je la subirai donc, mais je suis innocent. » Avec cette habileté prodigieuse qui a fait sa renommée, et profitant de l'incident, maître Henri Robert essaya de grandir le caractère de son client par le fait même de son silence, en faisant allusion à des devoirs moraux que seules des âmes héroïques sont susceptibles de s'imposer. L'éminent avocat ne parvint qu'à convaincre tout à fait ceux qui le connaissaient, M. Darzac, mais les autres restèrent hésitants. Il y eut une suspension d'audience, puis le défilé des témoins commença, et Rouletabille n'arrivait toujours point. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, tous les yeux allaient à cette porte, puis se reportaient sur le directeur de l'époque, qui restait impassible à sa place. On le vit enfin, qui fouillait dans sa poche, et qui en tirait une lettre. Une grosse rumeur suivit ce geste. Mon intention n'est point de retracer ici tous les incidents de ce procès. J'ai assez longuement rappelé toutes les étapes de l'affaire pour ne point imposer au lecteur le défilé nouveau des événements entourés de leur mystère. J'ai hâte d'arriver au moment vraiment dramatique de cette journée inoubliable. Il survint, comme maître Henri Robert posait quelques questions au père Mathieu, qui, à la barre des témoins, se défendait entre ces deux gendarmes d'avoir assassiné l'homme vert. Sa femme fut appelée et confrontée avec lui. Elle avoua, en éclatant en sanglots, qu'elle avait été l'amie du garde, que son mari s'en était douté, mais elle affirma encore que celui-ci n'était pour rien dans l'assassinat de son ami. Maître Henri Robert demanda alors à la cour de bien vouloir entendre immédiatement sur ce point Frédéric Larsan. Dans une courte conversation que je viens d'avoir avec Frédéric Larsan pendant la suspension d'audience, déclara l'avocat, celui-ci m'a fait comprendre que l'on pouvait expliquer la mort du garde autrement que par l'intervention du père Mathieu. Il serait intéressant de connaître l'hypothèse de Frédéric Larsan. Frédéric Larsan fut introduit. Il s'expliqua fort nettement. « Je ne vois point, dit-il, la nécessité de faire intervenir le père Mathieu en tout ceci. » Je l'ai dit à M. de Marquet, mais les propos meurtriers de cet homme lui ont évidemment nui dans l'esprit de M. le juge d'instruction. Pour moi, l'assassinat de Mlle Stangerson et l'assassinat du garde sont la même affaire. On a tiré sur l'assassin de Mlle Stangerson, fuyant dans la cour d'honneur. On a pu croire l'avoir atteint, on a pu croire l'avoir tué. À la vérité, il n'a fait que trébucher au moment où il disparaissait derrière l'aile droite du château. Là, l'assassin a rencontré le garde qui voulut sans doute s'opposer à sa fuite. L'assassin avait encore à la main le couteau dont il venait de frapper Mademoiselle Stangerson, alors il en frappa le garde au cœur et le garde en est mort. Cette explication, si simple, parut d'autant plus plausible que déjà beaucoup de ceux qui s'intéressaient au mystère du glandier l'avaient trouvé. Un murmure d'approbation se fit entendre. « Et l'assassin, qu'est-il devenu dans tout cela ?» demanda le président. « Il s'est évidemment caché, monsieur le président, dans un coin obscur de ce bout de cour. » Et après le départ des gens du château qui emportaient le corps, il a pu tranquillement s'enfuir. À ce moment, du fond du public debout, une voix juvénile s'éleva. Au milieu de la stupeur de tous, elle disait « Oh, je suis de l'avis de Frédéric Larsan pour le coup de couteau au cœur. Mais je ne suis plus de son avis sur la manière dont l'assassin s'est enfui du bout de cour. » Tout le monde se retourna. Les huissiers se précipitèrent, ordonnant le silence. Le président demanda avec irritation qui avait élevé la voix et ordonna l'expulsion immédiate de l'intrus. Mais on réentendit la même voix claire qui criait « C'est moi, monsieur le président, c'est moi !» Joseph Rouletabille.